Aujourd'hui, Paris, ville lumière, occupe une place importante dans l'imaginaire des gens et les touristes ne manquent pas. Dans l'Antiquité aussi, il y avait des capitales qui accaparaient le devant de la scène, mais elles étaient répulsives car elles inspiraient la terreur. Avant Rome et Babylone, il y eut Ninive la Cruelle. On rencontre cette ville pour la première fois dans le livre de la Genèse, où il est écrit « Cush eut aussi pour fils Nimrod qui se mit à exercer un grand pouvoir sur la terre. Les capitales de son royaume furent Babel, Érech, Akkad et Calné au pays de Shinéar en Babylonie. De ce pays-là, il passa en Assyrie et bâtit Ninive, Rehoboth, Cala, etc. » Après avoir érigé plusieurs villes dans le sud de la Mésopotamie sur l'Euphrate, Nimrod est remonté dans le nord et a bâti Ninive sur le fleuve Tigre. On a retrouvé certaines inscriptions qui déclarent que cette ville aurait été fondée en l'an 2300 avant Jésus-Christ. Au XVIIIe siècle, toujours avant Jésus-Christ, Hammurabi, le sixième roi de la première dynastie de Babylone, mentionne l'existence de Ninive. C'est vers 900 avant Jésus-Christ que fut constitué le grand empire assyrien, ce qui déboucha sur 3 siècles de guerre sanglante avec les peuples voisins. C'est surtout dans la seconde moitié du 8e siècle que l'empire va connaître une grande expansion. Plusieurs rois commencent à séjourner à Ninive une partie de l'année. Salmanazar III fit de la ville la base de ses opérations militaires expansionnistes. Il écrit qu'il fit la guerre au roi d'Israël Nord, Akab, et que Jéhu, le fondateur de la 4e dynastie des rois d'Israël Nord, lui était soumis. Ozias, roi de Juda, et Menahem, roi d'Israël Nord, furent tributaires du roi assyrien Tiglath-Pileser III, qui envahit aussi la Syrie. Plus tard, Akaz, roi de Juda, devint tributaire des Assyriens et adopta les dieux de son nouveau maître. Le roi assyrien Salmanazar V envahit Israël Nord et fit le siège de Samarie, sa capitale, qui tomba en 722 avant Jésus-Christ. 21 ans plus tard, le roi Sennachérib, fils de Sargon, fit de Ninive sa capitale et envahit Juda, qui avait alors Ézéchias pour roi. Il détruisit 46 villes, mais après avoir encerclé Jérusalem, 185 000 de ses soldats furent tués pendant la nuit par l'ange de l'Éternel, et le roi dut lever le siège et retourner chez lui. Manassé, roi de Juda, adopte une toute autre politique que son père Ézéchias, car pour lui, toute tentative de résistance aux Assyriens lui paraît désespérée et il préfère se soumettre. Seulement, cette initiative n'est pas sans conséquences néfastes, car par la même occasion, Manassé adopta les dieux assyriens ainsi que bien d'autres, comme s'il ne voulait en offenser aucun. À certains de ces cultes s'associaient les abominables sacrifices d'enfants, et on sait que Manassé a offert au moins l'un de ses fils, et il a aussi fait la promotion des pratiques occultes, bien sûr interdites par la loi, et s'est rendu coupable de nombreux crimes de sang. Sennachérib, le roi assyrien qui avait encerclé Jérusalem, mais qui avait échoué, avait plusieurs fils dont un qui s'appelait Esar-Hadon. Bien qu'il ne fût pas l'aîné, c'était son favori. Cette partialité gêna tellement 2 autres frères qu'ils assassinèrent leur père, puis s'enfuirent en Arménie. Lorsque ce crime abject fut commis, Esar-Hadon était à la tête d'une expédition au nord-ouest de l'Empire. Il rentra aussitôt à Ninive et devint roi. Il fut aussi bon général qu'habile administrateur. La première année de son règne, il vainquit, au sud de la Babylonie, le roi des Chaldéens, puis il reconstruisit la ville de Babylone que Sennachérib, son père, avait détruite, parce qu'elle se soulevait constamment contre la domination assyrienne. Dans la quatrième année de son règne, Esarhaddon s'empara de Sidon en Phénicie, la pilla et déporta ses habitants. Ensuite, il conquit la plus grande partie de la Palestine. Parmi les vaincus, on compte les rois d'Édom, de Moab, d'Ammon et de toutes les villes-états de la Philistie, ainsi que Manassé, roi de Juda, parce qu'il fut accusé de complot contre la Syrie. Esarhaddon réussit même à envahir le désert d'Arabie et la Médie, pourtant fort éloignée. Ce peuple refera parler de lui. Dans sa 11e année, il assiégea Tyr et envahit l'Égypte qu'il pille. On a retrouvé sur un bâtiment une inscription qui date de son règne et qui dit « J'ai convoqué les rois du pays des Hittites, de ceux de l'autre côté de la mer, Baalu, roi de Tyr, Manassé, roi de Juda. » Esarhaddon fut succédé par son fils aîné, Assurbanipal, tandis qu'un autre de ses fils devint gouverneur de Babylone, mais sous la suzeraineté d'Assurbanipal. En l'an 663, il s'empare de Thèbes, capitale de la Haute-Égypte et première cité de l'Orient, ce qui lui assure une suprématie totale. C'est au début du règne de ce roi que l'Assyrie parvint au fait de sa puissance. Comme les rois précédents, Assurbanipal s'est lancé dans des conquêtes et rapporta des trésors d'Égypte, de Suse, capitale d'Élam à l'est de la Babylonie, et de Babylone, où il était allé combattre son frère qui voulait son indépendance. Mis à part guerroyer à droite et à gauche, Assurbanipal aimait les lettres et constitua une énorme bibliothèque à Ninive. Cependant, dès le milieu du 7e siècle avant Jésus-Christ, l'Empire commence à rencontrer quelques difficultés. Le royaume de Babylone, assujetti depuis longtemps, avait déjà à plusieurs reprises tenté de reconquérir son indépendance. Le roi de Babylone fait une nouvelle tentative, mais sans succès. Les troubles continuent. Une révolte de Suse, capitale d'Élam, finit dans un immense bain de sang et la destruction de la cité. Babylone se rebelle à nouveau, et c'est un certain Nabopolassar qui, pour Assurbanipal, mate la révolte. Mais Nabopolassar, dont le fils n'est autre que Nabucodonosor, profite de la mort du roi assyrien pour fonder un nouvel empire. Un an plus tard, une première attaque des Mèdes contre la Syrie est repoussée. Mais la Syrie a déjà amorcé un déclin qui sera très rapide. En 618, Nabopolassar est vainqueur contre Assur, la deuxième ville assyrienne. Puis il remonte le fleuve Tigre, allant de victoire en victoire. De leur côté, les Mèdes attaquent à nouveau et rejoignent les Babyloniens dans la ville d'Assur. Ils concluent une alliance et sont rejoints par les Scythes, dont les hordes déferlent sur l'Empire, le mettant à sac. 14 ans après la mort du puissant roi Assurbanipal, Ninive est prise par les nouveaux alliés qui rasent la ville. En 606 avant Jésus-Christ, il ne reste plus rien de l'Empire assyrien et les Mèdes et les Babyloniens se partagent son territoire. 2 siècles plus tard, le général grec Xénophon traversera les ruines de Ninive sans même savoir le nom de la ville ou du peuple qui l'avait habité. Le site de Ninive n'a été redécouvert que récemment, en 1845. Voilà pour l'arrière-plan historique. C'est vraiment de l'histoire ancienne, mais elle est importante pour comprendre la prophétie de Nahum qui ne concerne qu'un seul sujet, le jugement de Ninive. Dans l'ancienne version grecque de l'Ancien Testament, le livre de Nahum vient juste après Jonas comme si c'était la suite. En effet, environ un siècle auparavant, Jonas avait prêché la repentance aux habitants de Ninive qui l'avaient écouté. Mais ce revirement ne dura guère et très vite, cette ville retomba dans ses travers habituels qui sont l'orgueil, la cruauté, dont tous les rois se vantaient, une idolâtrie épouvantable et surtout une arrogance démesurée à l'égard de la souveraineté de l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Le dernier grand roi assyrien a déclaré « Je suis Assurbanipal, le grand roi, le roi puissant, roi de l'univers, roi d'Assyrie. Les grands dieux élèvent mon nom, ils ont rendu mon pouvoir puissant. » Et Zaradon était encore plus égotiste. Il a dit « Je suis puissant, je suis tout puissant, je suis un héros, je suis gigantesque, je suis colossal, je suis honoré, je suis élevé, je suis sans égal parmi tous les rois, je suis choisi par les dieux Assur, Nabu et Marduk. » Fin de citation. Les textes sacrés ne permettent pas de préciser l'identité du prophète Nahum, dont le nom signifie « celui qui réconforte », car il n'est pas mentionné ailleurs que dans son livre, et celui-ci ne nous apprend rien d'autre à son sujet que sa localité d'origine, El Kok, dont on ne connaît pas la situation avec certitude. Cependant, Jérôme, père de l'Église, affirme que ce village était bien connu des Juifs et se trouvait en Galilée, mais que de son temps il n'en restait aucune trace. Capernaum, souvent mentionné dans les évangiles, signifie « village de Nahum ». Même si ce n'est pas son lieu de naissance, l'existence de ce village semble confirmer que Nahum était bien galiléen. De plus, ce prophète montre un intérêt particulier pour le nord de la Palestine, déplorant que le Bazan comme le Carmel deviennent des déserts, la flore du Liban se fane. Il est probable que quand le roi assyrien Esarhaddon a importé des populations païennes en Galilée, la famille de Nahum, ainsi que beaucoup d'autres Israélites du nord, ont émigré en Juda. Le ministère de Nahum eut lieu entre la chute de Thèbes en Égypte en 663 avant Jésus-Christ, puisque le prophète y fait référence comme à un événement passé, et celle de Ninive en 612 qu'il prédit. Cependant, certains indices permettent de préciser davantage la date de sa prophétie. L'Empire assyrien exerce encore une sanglante tyrannie sur toute la région, sous l'égide d'un roi puissant et paraît à l'apogée de sa grandeur. Rien ne semble menacer sa domination et Nahum ne mentionne ni les Babyloniens ni les Mèdes. Le royaume de Juda est soumis à la Syrie, ce qui ne sera plus le cas à partir de 630. En outre, 9 ans après avoir été mise à sac, la cité de Thèbes a retrouvé son indépendance. Cependant, la manière dont Nahum rappelle la chute de Thèbes pour démontrer que celle de Ninive sera similaire suppose que la cité égyptienne ne s'est pas encore relevée de sa défaite. Le livre apocryphe de Tobit laisse entendre que Nahum a prophétisé bien avant la chute de Ninive, mais il est difficile de savoir quelle validité accorder à cette indication. Ce qui est sûr est que Nahum a prophétisé entre la chute de Thèbes en 663 et l'indépendance retrouvée de Juda en 630, ce qui correspond au règne de l'Assyrien Assurbanipal et du roi Manassé, une période très sombre de l'histoire de Juda. Nahum mentionne aussi une défaite que les Assyriens viennent d'infliger au royaume de Juda et annonce que ce sera la dernière. Or, vers l'an 648, le livre des Chroniques rapporte une incursion assyrienne dans Juda. Je lis ce passage. « Alors l'Éternel fit venir contre eux les généraux du roi d'Assyrie qui capturèrent Manassé. Ils lui mirent des crochets au nez, l'attachèrent avec des chaînes de bronze et l'emmenèrent à Babylone. » En combinant tous les faits historiques mentionnés, il semblerait que Nahum ait prophétisé aux alentours de l'an 645 avant Jésus-Christ. On sait aussi que dans sa prison, Manassé a imploré le secours de l'Éternel et s'est humilié profondément. Alors Dieu lui a fait grâce et le roi a pu retourner chez lui. Les Écritures ne précisent pas les raisons ni de l'emprisonnement de Manassé, ni de sa libération. On sait par contre que de retour à Jérusalem, il a fait disparaître de sa capitale les autels païens et a rétabli le culte de l'Éternel. De toute évidence, la repentance de Manassé fut sincère et Nahum a voulu encourager les changements que le roi avait engagés et en particulier l'abandon des faux dieux. On peut quand même se demander comment ce roi avait pu tomber aussi bas, surtout quand on sait que de tous les souverains de Juda, son père Ézéchias fut le plus fidèle à l'Éternel. Idolâtre jusqu'au bout des ongles et couvert de sang parmi les rois de Juda, Manassé fut pire que son grand-père Akaz et au moins égal à la reine Athalie, épouse du faible Yoram, qui régna au siècle précédent. Non seulement Manassé a sacrifié l'un de ses fils à un faux dieu, mais selon la tradition, c'est lui qui aurait tué le prophète Ésaïe en le faisant scier en deux à l'intérieur d'un tronc d'arbre. Et pourtant, quand dans sa détresse il a crié à l'Éternel, Dieu lui a fait grâce, ce qui confirme bien les paroles de l'apôtre Paul qui a écrit « Quant à la loi, elle est intervenue pour que le péché prolifère, mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé ». La miséricorde qui a été accordée à cet horrible roi me fait penser que même s'il existe un point de non-retour, comme on ne peut pas le connaître, il n'est jamais trop tard pour invoquer l'Éternel. La prophétie de Nahum n'adresse pas directement les fautes pourtant graves commises par le peuple de Juda sous la royauté de Manassé, mais il reproche simplement à ses dirigeants d'avoir adopté une ligne de conduite qui a fait d'eux des rebelles à l'Éternel. Comme je l'ai dit, Nahum veut plutôt encourager Manassé dans ses réformes religieuses et sa prophétie est d'abord dirigée contre Ninive, qui sera totalement et définitivement anéantie, ce qui conduit Nahum à dire que Juda n'aura plus rien à craindre des Assyriens. La prophétie de Nahum s'ouvre majestueusement par un psaume ou hymne qui célèbre l'Éternel comme un Dieu de grâce, mais juste. Il est patient envers ceux qui se rebellent contre son autorité, mais finit par faire payer leurs crimes aux coupables. Il intervient alors de manière puissante et redoutable pour assouvir sa colère. Pour cette raison, il détruira Ninive. Cependant, il prend soin de ceux qui mettent en lui leur confiance. Dans une deuxième section, et comme je l'ai déjà dit, le prophète assure ses compatriotes que si les Assyriens viennent de leur infliger une cuisante défaite, cela ne se reproduira plus. Au contraire, le tyran qui règne à Ninive disparaîtra et l'Éternel libérera son peuple de la domination assyrienne. Une troisième section comporte sept tableaux qui décrivent, à l'aide de diverses images, la ruine à venir de Ninive et qui présentent les causes de cet événement. La violence, la cruauté, la duperie au service de la volonté insatiable de domination des autres peuples. Ninive ne résistera pas mieux à ses ennemis que Thèbes, une ville au site bien protégé, qui comptait de nombreux alliés, et qui pourtant est tombée aux mains des Assyriens. Ninive sera complètement dévastée et vidée de ses habitants. La conclusion du livre souligne le caractère définitif du désastre qui va fondre sur elle. Beaucoup de villes antiques détruites furent reconstruites, mais Ninive ne l'a jamais été. La prophétie de Nahum est un poème rythmique, presque chantant et bien ordonné. Ces différentes sections sont bien arrangées et contribuent à l'unité de l'ensemble. Tout au long du livre, Nahum s'exprime dans un style dynamique et vivant avec des couleurs brillantes et des descriptions pittoresques. La première section accumule les images de bouleversement de la terre et de destruction pour faire sentir le caractère terrible de l'intervention divine. Dans la deuxième section, le prophète s'adresse alternativement à Juda et à Ninive, comme si les Assyriens faisaient partie de ses auditeurs aux côtés des habitants de Juda. La troisième section multiplie les images suggestives. Ninive est tour à tour bassin qui se fissure, antre du lion, prostituée, figuier secoué, abri d'un essaim grouillant de sauterelles soudain délaissées. Nahum sait décrire ces événements tragiques de telle sorte que ses lecteurs ont l'impression qu'ils se déroulent sous leurs yeux. Comme chez bien d'autres prophètes, l'Éternel apparaît comme celui qui dirige l'histoire. C'est lui qui produit la ruine de Ninive pour libérer son peuple ainsi que d'autres nations du joug de la tyrannie. Nahum souligne aussi que les événements de l'histoire ont un sens. La ruine de Ninive ne survient pas par hasard, car elle a pour cause les crimes dont la ville s'est rendue coupable. La prophétie de Nahum est un message de jugement, mais qui s'accorde avec la signification du nom du prophète, parce qu'il réconforte et encourage ceux qui sont victimes de l'oppression, puisqu'il enseigne que Dieu finit toujours par intervenir, et déjà en ce bas monde, même s'il semble tarder. Le livre de Nahum est donc porteur d'un message d'espérance pour celui qui se confie en l'Éternel. Nahum écrit « L'Éternel est bon, il est un sûr abri au jour de la détresse, et il prend soin de ceux qui se confient en lui. »